etc. Tous savent évidemment que cela n'est pas vrai. Tous, inclus ceux qui le répètent. Tous savent que la fille de la bruja n'a jamais été enceinte. On l'aurait remarqué, dans un petit village comme celui-ci, un tel événement ne peut passer inaperçu. Mais cette version extravagante continue de circuler et de trouver preneur, et tous les villageois s'en repaissent sans nullement y croire et en y adjoignant de savoureux et fantaisistes additifs sordides si possible. « Il faut que tu comprends qu'à cette époque-là, me dit ma mère, les racontages remplacent la télévision et que les villageois, dans leur appétit romantique de disgrâce et de drame, y trouvent matière à rêve et à inflammation. » Mais avec les événements de juillet 36, cette rumeur s'envole, car des choses autrement importantes sont désormais en jeu. Ce qui importe à présent, ce qui importe follement, ce qui importe furieusement, c'est de classer les gens en bons ou en mauvais, selon leur étiquetage politique. Ce qui importe par-dessus tout, c'est de savoir qui est de la faille, qui du poum, qui du PCE et qui de la phalange. Car ces appartenances priment désormais sur tout le reste et écrasent les nuances et les contradictions de ceux qui s'en réclament. Dans l'Espagne en guerre de 36, les subtilités à la trappe. Ce qui importe donc, c'est de savoir que Diego s'est inscrit, il y a quelques mois, au Parti communiste, à la stupeur de tous. L'on a longuement commenté les raisons de cette adhésion, et l'on a beaucoup ri en imaginant la tête qu'avait dû faire Doña Pula en apprenant que son neveu avait fait alliance avec les monstres moscovites. « On s'est perdu en supposition, dit ma mère, avec cette psychologie à deux balles, comme tu dirais, dont les gens s'en capricent quand ils sont privés de distractions élémentaires. On s'est demandé si Diego s'était inscrit au parti avec le dessein de s'opposer à son père ou pour défendre ses intérêts. On s'est demandé si ce geste traduisait une tentative d'évasion hors de la sphère des Burgos ou le souci affectueux de les garder d'éventuelles représailles. On s'est demandé si son mobile profond ne se trouvait pas précisément dans cette concurrence qu'il faisait à son père, qu'il voulait détrôner tout en le protégeant. On s'est demandé s'il avait trouvé là une forme de réparation à une enfance de laquelle on ignorait tout, mais que l'on supposait désastreuse. On s'est demandé si son embrigadement n'était pas pour lui l'occasion rêvée de gagner des galons et d'être accepté enfin par les habitants du village. On s'est demandé s'il connaissait lui-même les raisons de son embrigadement et si le ton péremptoire sur lequel il parlait ne recouvrait pas justement une forme de vacillement intérieur. On s'est demandé si sa crainte que la pureté de son adhésion souffrît des origines bourgeoises de son père ne l'amenait pas à affirmer ses idées avec cette dureté implacable. Car désormais Diego, qui s'est toujours montré fuyant et taciturne, prend la parole au café et ailleurs sur un ton d'autorité et une sorte de violence retenue qui a surpris tout son monde. Il pontifie, il fait l'avantageux. Il se plaît à expliquer avec l'aplomb d'un Robespierre la situation du moment à la lumière des articles du Mundo Obrero. Il a dévoré les formules ampoulées du journal. Il en a essayé les effets dans sa chambre et devant son miroir. Et ces formules lui ont paru justes et belles. Et les confuses aspirations qui remuent son cœur n'ont pas trouvé de meilleure expression que par elles. Si bien que Don Jaime ne reconnaît plus son fils et qu'il en souffre, il voit dans le nouvel endoctrinement de Diego et dans le culte idolâtre qu'il porte à ce Staline le signe douloureux que son long travail d'éducation spirituelle s'est effondré. Diego, d'ailleurs, depuis qu'il est entré dans sa famille adoptive, paraît avoir à cœur de la punir et de l'attrister. Enfant, il est sombre, renfrogné, refusant farouchement tous les gestes de tendresse comme si une force terrible les lui interdisait. Adolescent, une rancœur hargneuse, incompréhensible, l'anime, une sorte de colère muette, d'animosité retenue contre les choses et les êtres, qui amène à supposer qu'un événement irréparable s'est produit dans sa vie avant même qu'il ne connaisse les tourments des adultes. Il a des mots qui blessent, il connaît déjà leur pouvoir, il est précoce. Mais comme il n'ose exprimer sa violence envers son père, il la tourne contre sa belle-mère, dont il a tout de suite deviné dans ses yeux la faiblesse, quelque chose de brisé. Et il suffit que celle-ci s'exprime pour qu'il prenne aussitôt furieusement son contre-pied.